3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bonjour à tous et bienvenue à Programme Double, un podcast qui est diffusé une fois ou deux semaines et dans lequel je vais vous présenter deux films qui sont reliés soit par une thématique, une franchise, un acteur ou un réalisateur. Et donc aujourd'hui, je vais toucher pour la première fois au domaine du documentaire et pas de n'importe quelle façon puisqu'on va le faire dans un spécial programme triple puisque je vais couvrir la trilogie de That's Entertainment. 6 heures de rétrospective de l'univers incroyable du drame musical à Hollywood, mais plus spécifiquement cette période incroyable qu'a vécu la compagnie Metro Goldwyn Mayer entre les années 1930 et 1960. Mais le musical, ça a toujours été comme une nostalgie incroyable pour Hollywood, puisque le tout va commencer en 1927 avec le tout premier film sonore qui est sorti au cinéma et qui s'intitulait « The Jazz Singer ». Dans ce film-là, bien sûr, le premier film parlant de l'histoire du cinéma, eh bien, il n'y avait aucun dialogue qui avait été enregistré, seulement les chansons, ainsi que quelques rares interventions parlées de l'acteur Al Jolson au sein de ses moments musicaux. Cette même année, Fox Film Corporation va lancer un nouveau procédé qui va s'appeler le Movie Tone. Donc, le Movie Tone, ça permettait de photographier le son sur une pellicule cinéma et de le rajouter sur une bande le long des photogrammes du film. L'inconvénient de ce procédé, c'est que dès qu'on coupait le bobine du film, bien à ce moment-là, le son était totalement désynchronisé. Mais le succès du chanteur de jazz ou de jazz singer va inciter les majors à complètement abandonner le cinéma muet et se tourner plus vers le sonore et surtout le musical, et ce, dès les années 1929. The Hollywood Review, ça c'est le film dans lequel on va entendre la célèbre chanson « Singing in the Rain » pour la première fois, qui sera interprétée par l'acteur Cliff Edward. Et c'est là que le genre du musical va venir au monde et qui va être mis en place au sein de tous les grands studios de l'époque. À un point tel que Hollywood va mettre sur le marché plus de 100 films musicaux en 1930. L'auditoire étant sursaturé de musicals, eh bien, on a autant eu cette popularité qu'en 1931, eh bien, les compagnies ont décidé de sortir seulement 14 films sur le musical, puisque vers la fin des années 30, ce type de film-là ne rapportait plus beaucoup d'argent. Mais va arriver, bien sûr, cette période mouvementée des années 30 avec la grosse crise économique. Puis après ça, dans les années 40, on va avoir les années de guerre, la menace nucléaire, la guerre froide, tout ça qui va faire en sorte que ça va assombrir la vie de monsieur et madame tout le monde. Et donc, à ce moment-là, quelle merveilleuse idée que de ramener le musical en avant-plan. Et c'est ce que MGM va faire à ce moment-là, puisque MGM, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, va se mettre à régner sans partage sur la production du musical et va posséder sous contrat les plus grandes vedettes de l'époque, telles que Judy Garland, Fred Astaire, Gene Kelly, Frank Sinatra, Vincente Minnelli, Sid Caris, Esther Williams, Debbie Reynolds, Mickey Rooney, Jane Powell, Howard Keel, Catherine Grayson, Ann Miller et une multitude d'autres comédiens. C'est donc dans les années 50 que s'achèvera ce second âge d'or d'Hollywood et ça ne sera plus jamais égalé par la suite. Et c'est là qu'arrive l'importance de That's Entertainment qui nous permet, à travers sa trilogie de documentaires, de pouvoir nous présenter les meilleurs segments musicaux qui ont été réalisés et ce, à travers plus de 200 à 300 films. Donc, un travail incroyable qui a été fait au niveau du montage, quelque chose qui n'avait jamais été fait jusqu'alors.
Il est à préciser aussi qu'à partir des années 60, Hollywood va faire des films musicals à droite et à gauche, mais c'est quelque chose qu'on va voir moins souvent, sauf que quand on va le voir, c'est quelque chose qui va être souvent souligné soit par un prix aux Oscars ou par une nomination ou tout simplement par un regain de popularité. On n'a qu'à penser à West Side Story en 1961. On n'a qu'à penser à la duologie Funny Girls ou on n'a qu'à penser à My Fair Lady, The Sound of Music, Jesus Christ Superstar, Cabaret, Grease, All That Jazz, Popeye, Annie, A Chorus Line, Little Shop of Horrors, Chicago, et ainsi que les Ballroom Dancing, Roméo et Juliette, sans oublier l'excellent Moulin Rouge. Donc, dans cette émission spéciale, mais juste vous dire que je vais changer un petit peu ma façon de présenter les films aujourd'hui, puisque comme je présente trois films d'une même saga, je vais essayer de le faire d'une façon le plus rapidement possible pour entrer dans notre temps. Et donc, je vais seulement mettre un segment musical à la fin, mais je vais quand même mettre les bandes-annonces de chacune de ces productions. Donc, préparez votre système de son. Mettez vos souliers à claquettes parce que je vous propose ici de vous replonger dans la nostalgie de cette période incroyable du musical à travers trois documentaires produits sur la compagnie MGM au moment où ce style de film fut extrêmement populaire à travers le monde entier.
Yum, yum. It's a meal in itself. Our all-meat super dog. Enjoy one now.
And now, on with the show.
I was a seasoned performer of 17 when I first worked with Judy Garland. And all I had to do was take one look at this beautiful girl before the cameras, and I knew that she had it. She had that magic.
The stars you're seeing have all returned to MGM, the studio that invented the movie musical. They were a part of an era of entertainment unlike any other the world has ever known.
Let me tell you, for a little girl with a wild imagination, this place was heaven.
I have never seen it.
They're all here for one reason, to join their talents for the first and only time in one motion picture. They've come together in a kind of labor of love. It will never happen again. Metro-Goldwyn-Mayer, producers of the most magnificent movie musicals in all of Hollywood's history, proudly presents the greatest musical of them all. With special appearances by Elizabeth Taylor, Fred Astaire, Gene Kelly, James Stewart, Debbie Reynolds, Mickey Rooney, Bing Crosby, Liza Minnelli, Donald O'Connor, Peter Lawford, Frank Sinatra, with Judy Garland, Jane Powell, Clark Gable, Catherine Grayson, Jean Harlow, Joan Crawford. That's entertainment. It's more than a movie, it's a celebration.
By pretending you're a dancer with grace, you wiggle till they're jiggling all over the place.
Shout hallelujah, get happy, get ready for your judgment day. Come on, get happy, chase your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy, get ready for the judgment day. Sun is shining, come on, get happy, Lord is waiting to take your hand.
Nights, your name in lights, why we won't stop till you reach the top.
Thump, 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 when my heart strains, when he smiled I could feel a car shake.
New York, New York, a wonderful town, the Bronx is up and the battery.
Thank you. entertainment.
Admit we're a hit and we'll go on from there. We played a charade that was lighter than air.
A good old-fashioned affair.
As we sing this finale, we hope it was up your alley. No let, like you get in Macbeth, no ordeal. Like the end of Camille, this goodbye brings a tear to the eye. The world is a stage. The stage is a world of entertainment.
You can wait around and hope, but I'll tell you, you'll never see the likes of this again.
That's Entertainment.
That's Entertainment, ou Il était une fois à Hollywood, est un documentaire qui a été distribué par la United Artists le 17 mai 1974. Ce long métrage de 135 minutes a coûté 3,2 millions de dollars à produire, mais a quand même rapporté plus de 27 millions de dollars au box-office. Au niveau de la réalisation, de la production et de la scénarisation, eh bien, c'est Jack Halle Jr. qui nous a donné des documentaires comme The Wonderful Wizard of Oz, 50 Years of Magic, That's Dancing, The Oz Making of a Classic, Replays, Believe It or Not, The Incredible World of James Bond et Hollywood, The Gift of Laughter. Donc, c'est un homme qui est habitué de faire ce genre de documentaire-là qui s'est attardé à cette méga-production. Au niveau des gens qu'on peut retrouver là-dedans, eh bien, disons que tous les segments que l'on voit sont présentés par les vedettes légendaires du studio MGM de l'époque, soit Frank Sinatra, Gene Kelly, Fred Astaire, Peter Lawford, Debbie Reynolds, Bing Crosby, James Stewart, Elizabeth Taylor, Mickey Rooney, Donald O'Connor et bien sûr Liza Minnelli. C'est donc à l'occasion du 50e anniversaire des studios Metro Goldwyn Mayer que la compagnie a eu l'idée d'illustrer le genre musical avec lequel elle avait acquis une réputation sans égale et qui fut probablement les meilleurs moments de la compagnie MGM. That's Entertainment va donc donner une idée de la naissance et de l'évolution à travers un échantillonnage varié puisé dans plus d'une centaine de productions allant de Broadway Melody, réalisée à l'aube du parlant en 1929, jusqu'en 1958 avec la pièce Gigi, la dernière comédie musicale réalisée dans les studios hollywoodiens de MGM. Donc, sous la supervision du producteur exécutif Daniel Melnick, eh bien, le scénariste, producteur, réalisateur Jack Halle Jr. va se retourner vers les studios MGM et leur proposer de faire une rétrospective des meilleurs segments musicaux de 1920 jusqu'à environ 1950, prenant plus d'une douzaine de performances des meilleurs films du studio et qui va puiser ces séquences-là avec la multitude de vedettes de cette époque-là. Mais la difficulté à l'époque de faire ce genre de film-là, contrairement à aujourd'hui où tout est numérique, puis on peut tout simplement aller chercher les images et les monter plus rapidement, le réalisateur a dû regarder plus de 200 films d'une durée moyenne d'environ 100 à 110 minutes et remonter les images à partir des négatifs originaux de ces films, ce qui a pris plus de 2 ans au niveau de la production. Anecdote intéressante de That's Entertainment, c'est que la majorité des segments où l'on voit les vedettes du cinéma nous présenter toutes ces séquences-là ont été parmi les dernières séquences à être filmées dans le fabuleux backlot ou l'arrière-scène de MGM avant que ceci ne soit complètement détruit en 1973. Ce qui donne encore plus l'aspect nostalgique de regarder ce film-là, puisque pour la dernière fois, nous allons voir ces merveilleux studios qui étaient quand même en train de tomber en lambeaux. On n'a qu'à penser à cette fameuse séquence où est-ce qu'on a Fred Astaire qui revisite une station de train. Eh bien, la journée après son tournage, la station de train avait été complètement anéantie, mais on peut voir à quel point celle-ci est laissée à elle-même et que cette même station est dans des conditions de dégradation vraiment avancées. Même l'acteur Peter Lawford va, pour son segment, revisiter les extérieurs qui ont été utilisés pour la comédie musicale de 1947, Good News, décors extérieurs qui devaient être également détruits quelque temps après. Pourquoi le titre « That's Entertainment » Eh bien, c'est le titre d'une chanson qui avait été écrite par Arthur Schwartz et Howard Dietz pour la comédie musicale de MGM de 1953, The Bandwagon. Durant la production de That's Entertainment, une actrice paniquée du nom de Norma Shearer va contacter un des hauts gradés de la compagnie MGM, Paul Rosenfeld, afin d'insister que sa séquence de réaction face au seul segment de l'histoire du cinéma où Clark Gable va danser et chanter, qui s'appelait, c'était la chanson Putting on the Ritz du film Idiot's Daylight en 1939, soit complètement enlevée du documentaire. Mais malheureusement, on était incapable du côté de Rosenfeld de changer quoi que ce soit puisque le film était sur le bord d'être présenté. Shearer allait envoyer une lettre à Rosenfeld par la suite expliquant qu'elle était présentée dans cette séquence-là comme une vulgaire extra et non pas comme une actrice de haut niveau et que celle-ci était assise tout simplement à regarder les gens danser et performer alors que ces extras, semblaient être les stars de la production. Bien sûr, Rosenfeld, se sentant quelque peu mal à l'aise avec cette situation, va arranger un visionnement du film uniquement pour l'actrice qui va cependant se retirer et dire « Ce sera trop dévastateur pour moi de me regarder dans une séquence et d'avoir l'air aussi insignifiant. Donc, je me permets de me retirer parce que mon orgueil a été blessé. » Et donc, cette séquence va apparaître dans son intégralité, malgré tout, dans That's Entertainment. Ce film a été une révélation au moment de sa sortie en salle. Pourquoi? Bien, il faut comprendre qu'à l'époque, la cassette vidéo, le DVD, le Blu-ray disc, ça n'existait pas, et encore moins l'accessibilité à la télévision. Ce qui fait que la majorité des films de MGM, qui dataient d'avant 1936, eh bien, on les voyait très rarement à la télévision, ou si on les voyait, bien, à ce moment-là, ils étaient soit endommagés parce que les bandes de films étaient découpées ou endommagées, ou encore on les voyait dans un format plein écran et non pas dans un format cinéma. Ce qui fait que si, mettons, vous aviez un film qui était coté 2,35 au niveau de son format cinéma, c'est bien, quand vous l'écoutiez à la télévision, vous perdiez plus de 55% de l'image. Ce qui fait que tout ça a fait en sorte que de revoir ces grands films sur un grand écran a lancé cette popularité incroyable qu'a eu le premier film de cette trilogie. Le documentaire va être présenté en première au Lowe's Beverly Theatre à Beverly Hills le soir du 17 mai 1974. Où est-ce qu'on a pu assister, bien sûr, à ce qu'on appelle le tapis rouge, le red carpet, où la majorité des vedettes de Hollywood et surtout de la MGM se sont présentées. On a compté plus d'une centaine de vedettes de films qui étaient présents à cette avant-première. Et d'ailleurs, après le film, il y avait un dîner et une danse. Et n'importe qui payait 100 $ pour avoir son siège pour ce dîner-là était capable de s'asseoir à côté d'une de ces vedettes. Cette première aussi va comprendre plusieurs introductions live sur la scène, notamment de Sammy Davis Jr. et de Liza Minnelli, qui vont présenter sur le stage différentes vedettes qui étaient présentes, dont Debbie Reynolds, Frank Sinatra, Gene Kelly, Elizabeth Taylor et plusieurs autres. Malgré cet événement incroyable, eh bien malheureusement, la première a été comme éclipsée par un autre événement qui est survenu le même soir à Beverly Hills où la police fut confrontée à l'organisation qu'on appelait le Symbionese Liberation Army. Ça, c'est le regroupement qui a été responsable du célèbre enlèvement de Patty Hearst. Eh bien, il y avait eu une fusillade et plusieurs morts en plein centre de Beverly Hills, même à plusieurs endroits. Et donc, même si je ne me trompe pas, il y avait ça se passait également à New York. Donc, tout ça a complètement éclipsé cette soirée-là merveilleuse qui devait être à l'origine le moment de gloire de la MGM. Mais malgré ça, le film va ramasser quand même 25 600 $ pour sa première semaine, ce qui pour l'époque était énorme, 45 000 $ la semaine suivante, et on va aller chercher au total quand même un montant faramineux de 27 millions de $, quelque chose de rarement vu pour un documentaire. À un point tel que c'était tellement populaire qu'on allait avoir une suite par la suite en 1976, dont on va parler dans quelques instants, et un troisième chapitre qui sera en 1994. Et entre les deux, il y aura un documentaire en 1985 qui sera réalisé, qui s'appellera That's Dancing, qui couvrira à ce moment-là tout le musical à travers les multiples compagnies d'Hollywood.
It happened in 1974. the biggest thing in movies since movies began. It brought people together for sheer entertainment. But now, hang on to your hats. Here come Fred Astaire and Gene Kelly to bring you the greatest entertainment since That's Entertainment. That's Entertainment Part 2.
The show must go on as the show business cry.
But there's always someone who wants to know why.
With Robert Taylor, we'll try to come up with an answer.
It's Eleanor Powell, the dancer.
No business like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow.
I'll build the stairway to paradise with a new step every day. I'm going to get there at any price. Stand aside, I'm on my way.
Oh, we do everything alike. We look alike. We dress alike. We walk alike. We talk alike. And what is more, we hate each other very much. We hate our folks
on the avenue. Fifth Avenue. The photographers will snap us, and you'll find that you're in the road of gravure.
Judy Garland, Leslie Caron, Greta Garbo, Doris Day,
Bob Taylor, Jack Buchanan, Tony Martin, Maurice Chevalier,
Big Crosby, Mickey Rooney, Elner Paul, Annette Fabre. That's entertainment.
Clark Gable, Melvin Douglas, Bob Montgomery, John Barrymore,
Hermione Gingold, Esther Williams, Frank Sinatra, Dinah Shore,
Franco Tone, Greg Garson,
Katharine Hepburn, Spencer Tracy, Roddy McDowell, Merloy and William Powell.
The stage is a world of entertainment.
The greatest entertainment since That's Entertainment. MGM's That's Entertainment Part 2.
You ain't seen nothing yet.
That's Entertainment Part 2, où il était une fois à Hollywood 2, ou encore également connu en français sous le nom de Hollywood Hollywood, est un documentaire qui est distribué par United Artists le 16 mai 1976. Ce long métrage de 126 minutes aura coûté 3,2 millions de dollars à produire, mais ne va ramener que 5 millions de dollars au box-office. Au niveau de la réalisation, eh bien, c'est l'acteur-réalisateur Gene Kelly qui nous avait donné l'excellent Singing in the Rain and An American in Paris qui va s'occuper de la réalisation des différents segments de présentation, notamment en présence de Fred Astaire. Les producteurs américains Saul Chaplin et Daniel Melnick sont également responsables de la production du long-métrage. Melnick qui nous avait donné Footloose en 84 et Westworld en 1973, alors que Chaplin, lui, nous a donné West Side Story en 61 et The Sound of Music en 1965. Pour l'écriture du film, eh bien, c'est Leonard Gershy qui avait écrit le film 40 Carats et Silk Stockings. Au niveau du film, eh bien, c'est Gene Kelly et Fred Astaire qui vont servir de présentateurs et de narrateurs pour ce nouveau montage de séquences extraites en majeure partie de comédies musicales réalisées dans les studios de la compagnie Metro Goldwyn Mayer de la fin des années 20 jusqu'au début des années 60. Le tout va être entremêlé par certains extraits qui vont rendre hommage à des vedettes ou encore tout principalement à l'univers de la comédie tout court, donc le burlesque. Quelque chose qui va peut-être faire en sorte que That's Entertainment 2 va être peut-être le moins bon de la trilogie, mais ça, on va en reparler tout à l'heure. Donc, Gene Kelly va réaliser tous les segments dans lesquels il va apparaître aux côtés de Fred Astaire. Et ça, ça va inclure quelques segments qui vont être tournés à Paris, endroit où Gene Kelly avait tourné des films comme An American in Paris et Gigi. Ce sera le dernier film que réalisera l'acteur Gene Kelly dans sa carrière. Mais ce sera également la dernière fois que l'on verra danser et chanter l'acteur Fred Astaire, qui était à ce moment-là âgé de 76 ans. Entre guillemets, Gene Kelly, lui, au moment où il a fait ce film-là, était âgé de 64 ans. D'ailleurs, petite anecdote, c'est Fred Astaire qui va suggérer à Gene Kelly de prendre avantage de cette situation, c'est-à-dire la réalisation du film « That's Entertainment 2 », pour pouvoir réaliser ensemble une dernière performance sur grand écran. Et c'est la raison pour laquelle les deux hommes vont chanter au début du film la chanson « That's Entertainment ». Pour ce deuxième documentaire sur les musicals de la MGM, bien, l'acteur Gene Kelly va plus aller chercher des numéros musicaux plus obscurs, des choses qui sont moins connues, que les gens auraient plus de chances de moins se rappeler, tout en, bien sûr, comme je disais un peu plus tôt, couvrir le domaine de la comédie burlesque, que ce soit avec les Marx Brothers, que ce soit avec les Laurel et Hardy, Spencer Tracy et Catherine Hepburn, ou même on va aller rencontrer des vedettes comme Greta Garbo, Clark Gable, Mickey Rooney, John Barrymore, Wallace Beery, Joan Crawford, Jean Harlow, James Stewart et Lana Turner. Le segment d'ouverture du film That's Entertainment 2 a été créé par Saul Bass et rend hommage à une quantité industrielle de titres ayant couvert le musical dans les années 30 jusqu'aux années 50. Le film reçut de très bonnes critiques à sa sortie, mais malheureusement, le box-office n'y sera pas et il faudra donc attendre 18 ans avant d'avoir le troisième chapitre de cette saga That's Entertainment, dans lequel apparaîtra une dernière fois l'acteur Gene Kelly.
Metro-Goldwyn-Mayer, creator of the greatest movie musicals, brings you the ultimate musical entertainment in one motion picture. That's Entertainment 3. Follow the complete story of the MGM musical. From the early talkies to the golden age in fully restored Technicolor and six-track stereophonic sound. Relive your favorite performances, as well as discover never-before-seen sequences lost in the MGM vaults for over 40 years. With more stars than there are in the heavens. Sweeping romance. Dazzling spectacle. And a toe-tapping collection of songs that'll leave your heart singing. It's the motion picture event of a lifetime. That's Entertainment 3.
« That's Entertainment 3, ou Il était une fois Hollywood numéro 3, un documentaire qui a été distribué par la Metro Goldwyn Mayer le 6 juillet 1994. Le film, d'une durée de 113 minutes, a coûté 2,5 millions à produire, mais n'a rapporté que 280 000 $ en salle, la raison étant que le film a eu une sortie très limitée, puisque sa création à l'origine devait être un film fait pour la télévision. Ce sont les réalisateurs, producteurs et scénaristes américains Bud Friedgen qui nous avait donné Hollywood on Parade, Hooray for Hollywood et Hollywood the Dream Factory, et Michael G. Shepardon qui nous avait donné James Dean Forever Young, qui vont s'occuper de la réalisation, production et scénarisation de ce troisième volet. Au niveau des artistes invités pour présenter tous ces documents historiques, eh bien, on a l'actrice June Allison, Sid Caris, Lena Horne, Howard Keel, Gene Kelly, Ann Miller, Debbie Reynolds, Mickey Rooney et Esther Williams. Donc, encore une fois, une anthologie d'extraits de comédies musicales tournées dans les studios de la Metro Goldwyn Mayer. Mais ce qui est intéressant dans cette troisième partie, c'est qu'on va beaucoup plus se concentrer sur l'arrière-scène. Donc, on va voir la réalisation et le tournage de certaines de ces productions musicales qui ont été tant aimées dans cette période extraordinaire de cinéma de la compagnie Metro Goldwyn Mayer. À souligner aussi parmi les vedettes qui vont animer ce drame documentaire que ce sera la dernière apparition au cinéma de l'acteur Gene Kelly, et également l'actrice Esther Williams va faire sa première apparition dans un film au cinéma depuis plus de 30 ans. L'idée originale de That's Entertainment 3, eh bien, a été lancée par le dirigeant de MGM United Artists Home Video, George Feltenstein, au président de la MGM, Alan Ladd Jr., parce qu'on voulait faire comme une conclusion aux deux premiers films des années 70, mais on voulait que ce soit présenté au programme Turner Classic Movies directement à la télévision. Cependant, Alan Ladd Jr. va décider quand même de distribuer le film dans des petits festivals et dans des salles de cinéma d'une façon très limitée, ce qui va quand même ramener un certain montant d'argent à la compagnie avant qu'on puisse revendre les droits justement pour la télévision et à ce moment-là être capable de refinancer la production. That's Entertainment 3 a été réalisé par les studios Metro Goldwyn Mayer principalement pour célébrer les 70 ans de ce studio incroyable. Afin de captiver un auditoire qui, maintenant, vivait dans le domaine de la cassette vidéo et de la télévision à câble, et dont la majorité des films de la MGM étaient maintenant des choses connues, bien, on a décidé, dans ce troisième volet, de présenter non seulement l'arrière-plan des séquences, donc de montrer comment qu'un segment musical avait été filmé, mais en plus, de pouvoir présenter des segments qui n'ont jamais été diffusés avant, parce qu'ils ont été coupés au montage, soit parce que ça brisait le rythme du film, ou bien tout simplement parce qu'il fallait couper dans la durée du long-métrage et que c'était des séquences qui n'étaient pas nécessairement nécessaires. Donc, une belle façon de terminer cette trilogie, de voir des choses qui n'ont jamais été accessibles à l'auditoire avant la réalisation de That's Entertainment 3.
Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Delicious things to eat.
The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
It's intermission time, folks, so hurry, hurry, hurry. Step right over to our refreshment center for the most extravagant array of refreshment goodies ever assembled under one roof. Enjoy breathtaking, mouth-watering goodies, everything from a snack to a delicious full meal. At our refreshment center, you'll find a large variety of goodies to satisfy your hunger, your thirst, or your sweet tooth. So hurry, hurry, hurry. Visit our refreshment center now. And now, on with the show.
Donc, au niveau de la trilogie, eh bien, principalement, si vous êtes un adorateur du musical, je pense que ces trois documentaires-là sont réalisés d'une façon magistrale, malgré le fait qu'on ait trois équipes de réalisateurs différents. Chaque film va être capable d'aller chercher de quoi de différent et il va nous amener un grand intérêt pour le visionnement de ces productions. C'est sûr qu'on peut toujours discuter des choix qui ont été faits, puis même dans certains cas, certaines personnes pourraient considérer que tel bout musical est meilleur que l'autre. Mais quand on sait les complexités de faire le montage dans les années 70 et de la façon d'avoir accès à ces segments musicaux, et donc la majorité, c'est par mémoire, on doit quand même avouer que le spectacle est tout simplement impressionnant et que ça donne avec justice la part que les artistes ont eue dans la gloire de la comédie musicale à l'époque de la compagnie MGM. De plus, pour ceux qui ont aimé cette période, bien c'est sûr qu'au niveau nostalgique, que ce soit au niveau esthétique ou que ce soit de la présentation de ces segments musicaux grandioses, quelle belle opportunité de revoir ces séquences et de nous redonner le goût de peut-être réécouter des bons vieux films de l'époque au niveau de la comédie musicale. Autre chose aussi, on va remarquer que principalement, on va rendre hommage à deux grands noms. Peut-être même trois, je vous dirais, du musical de cette époque-là, soit Gene Kelly principalement, Judy Garland, bien sûr, et Fred Astaire. Donc, oui, ça peut arriver que dans certains films, vous allez revoir encore une fois des hommages qui ont été faits à ces gens-là, mais ce sont les points forts de la MGM dans les années 30, 40 et 50. Et donc, c'est normal qu'on souligne à multiples reprises leur travail. Cependant, il y a bien sûr des points faibles. Principalement, je vous dirais que ça vient surtout de That's Entertainment 2. That's Entertainment 2, où est-ce qu'à un moment donné, on a l'impression que c'est un fourre-tout parce que Gene Kelly décide de mixer le burlesque avec la comédie musicale, ce qui, par moment, n'a pas vraiment sa place. Mais bon, c'était sa façon de voir le sujet et ça fait quand même de That's Entertainment 2 quelque chose de totalement différent. L'autre chose aussi qui peut être faible, bien, c'est que par moment, on va parler de production, mais des fois, les réalisateurs ou les techniciens ou même les artistes qui sont autour des acteurs principaux ne sont pas nommés. Même des fois, les titres de films ne sont pas donnés, ce qui fait que par moment, bien, c'est plate parce qu'on veut savoir où les films sont et on n'a pas nécessairement une réponse à nos questions. Il y a par moment également des effets de répétition qui peuvent se faire ressentir, mais ce sont des points faibles qui peuvent être tout simplement effacés avec la qualité et le grandiose de chacune de ces séquences. L'autre chose aussi, bien, il faut comprendre que par moment, on va recouper certaines séquences. Donc, vous avez un segment qui va peut-être durer 5 minutes, mais là, on va vous présenter peut-être 2 minutes de cette séquence-là. Donc, il peut y avoir des moments de jump cut. Ça aussi, ça peut être fatigant, mais ça, à ce moment-là, vous avez juste à aller réécouter le film original, puis vous aurez à ce moment-là l'intégralité de la séquence. Du côté musical, eh bien, au niveau du vinyle, vous êtes capable d'avoir accès à That's Entertainment, qui a été mis sous l'étiquette MCA, qui était un disque double, et également That's Entertainment 2, qui va sortir sur un seul vinyle par la compagnie MGM Records. That's Entertainment 3, lui, va voir son CD sortir sous l'étiquette Angel le 23 août 1994. Et le 24 octobre 1995, les étiquettes Rhino vont sortir That's Entertainment, The Ultimate Anthology, donc la musique complète des trois films qui va être mise sur 6 CD. L'étiquette Rhino va également sortir l'année d'après, soit le 16 juillet 1996, That's Entertainment, The Best of MGM Music, un CD qui va inclure les meilleurs segments musicaux de la compagnie MGM.
The clown with his pants falling down on the dance. That's a dream of romance or the scene where the villain is mean. That's entertainment. The lights on the lady in tights or the bride with the guy on the side or the ball where she gives him her all. That's entertainment. The plot can be hot, simply teeming with sex. A gay divorcee who is after her ex. It can be Oedipus Rex, where a champ kills his father and causes a lot of bother. The clerk who is thrown out of work by the boss. Who is thrown for a loss by the skirt. Who is doing him dirt. The world is the stage. The stage is a world of entertainment. the doubt while the jury is out, or the thrill when they're reading the will, or the chase for the man with the face that's entertained. The Dane, who is known as the flame of the king of an underground ring, he's an ape who won't let her escape. That's entertainment. It might be a fight like you see on the screen, a swain getting slain for the love of a queen, some great Shakespearean scene where the ghost and the prince meet and everyone ends in mincemeat. The gag may be waving the flag that began with the Mr. Cohan hip hooray. The American way, the world is a stage. The stage is a world of entertainment. Hooray for showbiz!
Donc, au niveau des cotes artistiques de Mediafilm, Mediafilm, il va avec une cote 3 pour That's Entertainment. C'est ma cote également. J'y vais également avec une cote 3. Elle y va avec une cote 4 pour That's Entertainment 2. Également, j'y vais avec une cote moins bonne parce qu'effectivement, je trouve que le deuxième film est une petite coche en dessous du premier. Et au niveau du troisième, That's Entertainment, eh bien, Mediafilm, il va avec une cote 3, ce qui est également mon point. C'est plaisant de voir la manière qu'ils ont filmé les séquences et c'est également plaisant de voir tous ces segments qui ont été coupés au montage. Donc, vraiment quelque chose de bien à regarder. Au niveau de l'âge, eh bien, c'est bien sûr général ou pour tous au niveau de ma cote à moi. Ça, c'est pour toute la famille. D'ailleurs, si vous voulez initier vos enfants au musical, rien de mieux que That's Entertainment pour le faire. Au niveau de la disponibilité dans le DVD, eh bien, tous les films ont été mis en DVD en 2004 dans un box set de collection qui s'appelle That's Entertainment, The Complete Collection. Donc, là-dedans, vous avez That's Entertainment, le That's Entertainment 2, vous avez le That's Entertainment 3 et vous avez un disque additionnel de 4h30 de documentaires et de rajouts, de petits segments historiques qui sont vraiment plaisants si vous voulez revivre la période des années 30. 40 et 50. Au niveau du DVD, bien, on peut trouver les films également individuels, donc That's Entertainment, That's Entertainment 2 ont été faits en DVD et vous pouvez trouver That's Entertainment 3 en DVD et en Blu-ray, tout comme la Ultimate Collection qui se trouve également, comme je disais tantôt, en DVD et également en Blu-ray disc. D'ailleurs, en 2010, MGM va sortir l'ensemble des That's Entertainment, The Ultimate Collection, en Blu-ray et en HD. Ça va être les premiers films à être mis sur le marché en high definition pour MGM. Donc, on voulait souligner ça avec le musical et je pense que c'était un pari qui a été très bien réussi. Vous êtes capable également du côté du Turner Classic Movies d'avoir le Greatest Classic Film Collection. Donc, vous avez That's Entertainment 1 à 3 et le documentaire de 1985, That's Dancing, qui complète bien sûr l'ensemble si vous voulez vraiment avoir tout au niveau du musical. Donc, quelle belle façon que de tomber dans la nostalgie du musical ou de la comédie musicale que de réécouter ces trois documentaires passionnants qui nous permettent de revivre cette fabuleuse et incroyable période qui était celle de MGM dans les années 30, 40 et 50. Et que dire de plus que That's Entertainment. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. À ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantasticaradioweb.com dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler
intitulée Programme double. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme double, sur laquelle vous allez trouver toutes les explications au niveau des cotes artistiques que je donne au film, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout, vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme double, une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions, une émission de 3 heures, contrairement au podcast de Programme double qui, lui, n'est qu'un maximum de 1 heure à tous les 2 semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.